je voudrais d'abord qu'on commence par des définitions, parce qu'il y a parmi vous des gens assez jeunes, on s'y perd un peu, moi-même le premier. Vous savez, quand on crée une entreprise, on vous parle d'incubateur, on vous parle de pépinière, on vous parle d'accélérateur, on vous parle d'écosystème. Qui parmi vous, mesdames et messieurs, pourrait essayer de nous éclairer de sa lanterne, nous donner des définitions? Un incubateur, c'est quoi? Une pépinière, c'est quoi? Un accélérateur, un écosystème? Qu'est-ce que c'est? Quelle différence il y a entre ces différentes structures qui sont là pour aider des entreprises à démarrer ou à se développer? Alors, qui c'est? Allez, monsieur le maire.
Allez. Bonjour à tous et à toutes à nouveau. Oui, enfin, ça dépend beaucoup de la maturité finalement de l'entreprise. Une entreprise se crée, se développe, et puis après va peut-être prendre son envol. Donc ça veut dire quoi? C'est que ces différentes structures vont être adaptées à la maturité de cette entreprise. Je suis un jeune chef d'entreprise, en tout cas je souhaite l'être. J'ai une idée, je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai besoin d'être accompagné et accéléré dans la construction même de mon entreprise. Il y a des structures dites d'accélération ou d'incubation qui permettent de faire ça. Ensuite, on a des pépinières qui permettent d'être des accélérateurs de business. Une fois que je l'ai créé, cette boîte, c'est gentil, c'est bien, encore faut-il que j'ai des fonds, et qu'en plus, j'ai des clients. Donc peut-être qu'une pépinière, et c'est le cas en tout cas du village, va permettre à cette start-up de rencontrer des grands clients ou des grands partenaires qui vont lui permettre, à un moment donné, d'avoir ses premières références clients pour pouvoir se développer. Donc tout dépend de la maturité de l'entreprise. Et si on prend, par exemple, l'écosystème parisien, que je connais le mieux, le village, par exemple, il est post-incubation au NUMA. Donc vous voyez le NUMA. Le NUMA accueille des startups très très jeunes dans sa structure. Structure l'entreprise, l'accompagne jusqu'à ce qu'on appelle un démodèle, la recherche notamment d'investisseurs. Et nous, on les récupère après au village. Au moment où le chef d'entreprise est en mesure d'aller dialoguer avec des quatre dirigeants de grands groupes pour faire du business avec. Voilà en quelques mots, en tout cas, ma définition à moi qui n'engage que moi.
Monsieur Hansen, vous, c'est vous avez un accélérateur. Oui, on revient un peu sur ce mot.
Moi, je dirige l'accélérateur de start-up du groupe La Poste, qui s'appelle Start in Post. Les accélérateurs, il y en a deux sortes. Il y a les accélérateurs privés, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner les jeunes entreprises pour les aider à se développer en échange d'une part du capital de l'entreprise, de la start-up accompagnée. Et puis après, des accélérateurs corporate, qui, dans une démarche d'innovation ouverte, vont aider les jeunes entreprises, les start-up, à se développer en partenariat avec le grand groupe qui accélère la start-up. À mon sens, la notion d'incubateur et de pépinière renvoie très souvent à de l'hébergement physique des start-up. Et pour continuer à brosser l'écosystème, on peut également mentionner tout ce qui est corporate venture, c'est-à-dire quand un grand compte décide d'investir en minoritaire dans le capital d'une start-up qui est plus mature, qui a déjà un retour de marché et qui a besoin de capital pour se développer plus rapidement.
Donc voilà pour l'accélérateur. Madame Schrick, bon, vous, Silver Valley, c'est un écosystème. Alors c'est un mot qu'on utilise très souvent, hein, l'écosystème, un peu à toutes les sauces, j'allais dire. Mais dans le cadre de la Silver Economy, c'est quoi l'écosystème au sein duquel vous travaillez?
Déjà, je pense que quand on est incubé dans un incubateur ou quand on est accompagné par un accélérateur, on fait déjà partie d'un écosystème parce que l'objectif de ces structures, c'est aussi de rassembler autour des startups, des financeurs, des potentiels clients, etc. La logique de l'écosystème, c'est vraiment de réunir dans un même réseau qu'il soit un réseau physique ou plutôt immatérialisé, de réunir des acteurs qui permettent de rassembler toute la chaîne de valeur qui sera nécessaire au développement d'une start-up. Donc, par exemple, chez Silver Valley, on rassemble à la fois des start-up, des PME, des grands comptes, pour qu'ils puissent travailler ensemble dans une logique d'innovation ouverte. On pourra peut-être revenir sur l'innovation ouverte tout à l'heure.
Oui.
Mais aussi des investisseurs, des prestataires de services, les potentiels clients de ces sociétés, etc.
Alors merci pour ces explications. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres systèmes ou structures qui existent pour permettre à des start-up et à des grandes entreprises de se retrouver? On a parlé d'incubateurs, d'écosystèmes, d'accélérateurs. Il y a d'autres choses, concrètement? Madame.
Alors, oui, il y a d'autres choses. Enfin, il y a des structures aussi d'accompagnement, autres que de l'incubation ou des pépinières, type réseau entreprendre, où il y a un coaching, il y a un peu d'aide financière. Donc il y a ce type d'accompagnement. Et pour ma part, sur les mises en relation, j'ai découvert également les pôles de compétitivité. Donc, l'IVA fait partie de deux pôles de compétitivité.
un dans le monde de la finance et un dans le monde de la e-santé. Et le rôle des pôles de compétitivité, c'est vraiment plus d'aider dans un secteur spécifique à faire des mises en relation. Donc pour moi, c'est les deux autres structures qui accompagnent ma start-up aujourd'hui. En plus de la pépite, enfin, du village by CA et de...
La plupart de nos régions de France ont des pôles de compétitivité spécialisés. Dans ma région, par exemple, c'est pharmacie ou c'est cosmétique ou des choses comme ça. Voilà.
C'est, on revient sur cette logique d'écosystème qui rassemble à la fois des clusters, des pôles de compétitivité, des incubateurs, etc.
Bon, d'une manière générale. Et puis ensuite, on va s'intéresser à chacune de vos expériences. Pourquoi est-ce qu'un jour, on décide, quand on est une start-up ou un grand groupe, de se parler, de travailler ensemble? C'est quoi l'idée de base au départ? Qui répond?
Du coup, là, on remet le doigt sur la notion d'innovation ouverte,
ouais.
Qui part du constat que des startups sont souvent très innovantes, très réactives, mais elles ont une stabilité financière qui peut être compromise, elles n'ont pas encore atteint une certaine crédibilité. Et en parallèle de ça, il y a des grands groupes qui, eux, ont une stabilité financière, qui, eux, ont atteint une certaine crédibilité. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire collaborer ces acteurs pour pouvoir à la fois bénéficier de la réactivité d'une start-up et de la stabilité, la crédibilité d'un grand groupe. Et c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. C'est pas anodin que depuis 4-5 ans, on voit des entreprises créer leurs propres incubateurs, leurs propres accélérateurs, leurs propres fonds d'investissement. Avant, on avait seulement les fonds de venture capital qui investissaient et puis des incubateurs ou des accélérateurs qui étaient plutôt privés, des initiatives prises de manière individuelle. Et maintenant, il n'y a pas un grand groupe qui se pose la question de collaborer avec des start-up, que ce soit via un soutien financier, industriel, commercial, etc.
Monsieur le maire.
Oui, mais je pense que souvent on a eu tendance à les opposer.
Oui.
Or, vraiment, les uns ont besoin des autres et inversement pour continuer à se développer. La seule difficulté, c'est comment faire en sorte que chacun comprenne l'autre. À titre d'exemple, j'ai souvent des startups aussi dans le monde de la finance, bien sûr, au village, même si on accueille des startups dans tous les domaines. Et quand je présente une startup finance à un banquier, la startup arrive habillée en banquier et le banquier arrive habillée en startup. Ça vous montre quoi quand je dis ça? Ça vous montre que vraiment les uns et les autres ont envie de bosser ensemble. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas le même langage. Et l'objectif d'une structure d'accompagnement comme celle du village est de traduire, de faciliter, de mettre en relation, d'être les premiers ambassadeurs. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de collaboration où quand on parle d'open innovation, c'est certes de l'open innovation inspirée au travers des startups, mais pas que. En fait, on gère à la fois, bien sûr, des relations entre startups, déjà. C'est comment les uns et les autres arrivent à s'inspirer. Ensuite, des startups avec les grands groupes et aussi des grands groupes entre eux. Et c'est l'écosystème, c'est ça aussi. C'est chacun, finalement, peut trouver intérêt à bosser avec l'autre, surtout quand l'autre ne lui ressemble pas. C'est ce qu'on fait, en tout cas, au village.
Monsieur Hansen, pour moi, sur l'open innovation, l'innovation ouverte, en particulier entre grands comptes et start-up, le point clé, c'est l'intérêt business commun. La start-up et le grand compte ont comme particularité d'être des entreprises, donc d'un côté, une toute petite entreprise et de l'autre côté, une très grosse entreprise. Mais on est fait de la même matière et les objectifs communs, c'est de satisfaire nos clients. Donc là, on peut être aligné. Alors effectivement, le mode de comportement, la rapidité, le process de prise de décision sont très différents entre un grand compte et une start-up. Mais on peut être aligné autour de l'intérêt commun à chercher des clients ensemble et à satisfaire ensemble des clients. Donc ça, c'est le gros point, à mon avis, qu'il faut mettre en avant et qui permet d'aligner les intérêts des deux parties malgré les différences. Du côté du grand compte, l'avantage de travailler avec une start-up, c'est l'aspect inventivité, proactivité, innovation. Et ça permet donc d'aller plus vite dans le process d'innovation que si on décidait de tout redévelopper à partir de zéro. Et du côté de la start-up, pour les start-up qui n'ont pas encore entièrement testé le marché, qui n'ont pas encore un retour de marché, elles vont bénéficier de l'image de marque, de la force commerciale, et elles peuvent rentrer en contact directement avec les clients ou les prospects du grand compte. Donc ça leur permet de gagner beaucoup de temps en termes de retour de marché pour tester leurs produits.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu vous pousser dans vos retranchements, les uns et les autres, et on va vous demander à chacun individuellement ce que vous avez tiré comme intérêt, comme bénéfice dans votre histoire, pour votre entreprise, petite ou grande, sur ce sujet. Bah, on va commencer par vous, Madame Benaïm, mais vous vouliez peut-être ajouter quelque chose à propos de la question que je posais précédemment.
Du côté de la casquette vraiment entrepreneur, start-up innovante, et c'est vrai que l'avantage de travailler avec les grands groupes, et c'est vrai que le village m'a, en tout cas moi, bien aidé à pouvoir aborder ces grands groupes avec une grande facilité, c'est qu'en tant qu'inventeur et créateur, on a plein d'idées dans la tête, on se dit c'est génial, on va révolutionner le monde, et on ne sait pas en fait ce que veulent les autres, et donc de pouvoir avoir l'opportunité de travailler ou même discuter, d'approcher très facilement les grands groupes, ça permet en fait de valider des preuves du concept et de se rediriger à temps en fait. C'est-à-dire que si on crée un produit sans consulter le consommateur final puisqu'on n'y a pas accès, on va arriver à avoir un produit qui sera complètement imparfait, alors que l'idée de travailler dès le début et très rapidement avec des grands groupes et avoir des mises en relation, ça permet de réorienter, parce qu'il faut savoir que quand on crée une boîte, on pense A et en fait on va faire C ou D. Donc l'idée c'est voilà, de se réorienter au fur et à mesure en fonction des besoins des grands groupes. Et pour les grands groupes, ce que j'ai pu voir pour avoir beaucoup pitché devant des grands groupes, c'est qu'on a, nous, start-up, un dynamisme, une volonté qui les booste vraiment eux aussi, et donc ça leur plaît beaucoup de travailler avec des startups, même pour leur intérêt personnel, non pas seulement pour la boîte, mais même pour eux, ils se donnent plus à fond, j'ai l'impression, dans leur boîte quand ils sont un peu stimulés par des projets innovants de startups. Donc je pense que pour les grands groupes, c'est vraiment apporter un dynamisme personnel pour les collaborateurs et professionnel pour la société elle-même, et pour les startups, ça nous permet très très rapidement de répondre à vraiment un besoin.
Alors vous, quand vous êtes arrivé, bon, vous avez été incubé, j'ai dit, par le village by CA, vous êtes arrivé, vous aviez une idée. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que finalement, on vous a dit oui, vous allez dans la bonne direction, ou non, vous faites fausse route. Ça vous permet de tester sans prendre trop de risques, c'est ça. Et vous avez des conseils, vous avez un expert autour de vous, vous avez un parrain, vous êtes tutoré quelque part. C'est un peu ça l'idée ?
L'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on va pitcher une première fois, on va voir les objections, donc on va réfléchir comment répondre aux objections, et puis on va mieux comprendre leurs besoins en leur posant nous-mêmes des questions, en les challengeant un petit peu. Et finalement, nous, on a réussi à changer complètement de business model ou même complètement de message à faire passer.
Ah, vous avez changé de business model, vous?
Non, non, entre le début, il y a 2 ans, et aujourd'hui, on a une stratégie qui est complètement différente parce qu'on s'est adapté aux besoins des grands groupes, parce qu'on a pu être mis en relation avec eux assez rapidement, connaître leurs objections et essayer d'y répondre en adaptant le produit et le service à leurs besoins. Donc c'est vraiment ça, ça permet de co-créer en fait avec un grand groupe jusqu'à ce qu'il achète, bien évidemment c'est notre objectif, mais pour ça il faut plusieurs rendez-vous, et le fait de pouvoir être mis rapidement, pitcher devant pas mal de monde très rapidement, de récolter les questions-réponses, vraiment c'est ce qui fait grandir un projet et c'est ce qui le fait évoluer, parce qu'entre l'idée de base de l'inventeur et du créateur et ce que ça devient 2-3 ans après, ça n'a plus rien à voir.
Ça doit être impressionnant, non? Vous arrivez devant un grand groupe, vous arrivez devant une personnalité de premier plan comme Fabrice Marcella, vous dites j'ai un petit bracelet, vous allez voir c'est connecté, on sait tout de ma santé, on ne vous rit pas au nez, on vous prend au sérieux, vous êtes toute jeune, enfin je veux dire...
Bien au contraire.
Pour en vouloir quand même, non? Pour passer dans ce système, non?
Quand on crée une start-up, c'est qu'on y croit, donc ouais. On a envie de la vendre et on est juste super content. Ça fait presque un an, c'est un an que j'ai atterri au village. J'ai pu pitcher devant tous les plus grands groupes qui correspondaient à mon besoin. Et en plus, avec une mise en avant, on a de la crédibilité quand on fait partie d'une pépinière type Le Village. Vraiment, c'est un label. On a été sélectionné dans un village d'innovation. Donc, les gens ne rigolent pas du tout.
C'est important ce que vous dites, on a un label. Ouais, ça veut dire que ça sert pour la suite, c'est une vraie reconnaissance.
Ah oui,
que de la qualité de ce que vous proposez.
On a des labels aussi avec des pôles de compétitivité, mais vraiment, le village, en tout cas, commence à être bien connu. Et quand j'arrive quelque part et que je dis « je suis rue de la Boétie au village by CA », ça crée tout de suite, on a plus confiance. En tout cas, le grand groupe, je le vois, je vois la différence, il a vraiment confiance, il se dit « ah ben, c'est une start-up sérieuse, on peut avoir confiance dans la start-up ». Donc ça crée vraiment de la crédibilité et ça aide à approcher les grands groupes de manière, les grands groupes n'attendent que ça finalement. Alors que je pense que si j'avais créé il y a 5 ans, c'est pas du tout la même organisation, et pour approcher un grand groupe, j'aurais eu bien plus de difficultés qu'aujourd'hui.
On va poser les mêmes questions à Madame Soquet, mais je vois le maire du village by CA à côté de vous qui veut dire des choses.
Non, juste un truc, c'est quand on est un petit poussé face à un géant, c'est extrêmement compliqué de rassurer. Et on a beau avoir la plus belle idée au monde, et c'était le cas pour Victoria, comment faire pour rassurer ? Parce qu'on est une petite structure, parce qu'il faut encore faire nos preuves, parce que peut-être que la stabilité financière n'est pas là. Et le fait d'être sélectionné parmi 1200 dossiers, c'est déjà un premier gage de qualité. sélectionné par qui ? Pas uniquement par le Crédit Agricole, c'est par le village et des patrons de l'innovation, des directeurs d'innovation d'autres grands groupes partenaires du village. Sanofi, Engie, Sodexo, enfin on voit bien des boîtes du CAC 40 qui font déjà preuve d'une première marque de confiance auprès de la start-up. Donc d'avoir été sélectionné parmi 1200 dossiers, d'avoir aussi comme parrain un grand groupe et d'être hébergé au 55 rue La Boétie, ce sont autant d'éléments finalement qui vont percuter de façon positive dans la tête de l'interlocuteur qui est en face. Cet interlocuteur soit client, soit investisseur, soit un banquier.
Alors, puisque vous avez le micro, gardez-le, monsieur Marcella. Le Crédit Agricole, c'est pas une petite boîte, c'est une belle banque. Hein, vous n'êtes pas quand même que des mécènes ou des, comment dirais-je, amoureux de l'être humain. Vous faites ça pourquoi, quand même, derrière, il y a un peu envie de faire du business, non ? Non ?
Bien sûr,
que vous en tirez comme profit, parce que c'est très beau.
En fait, il y a trois grands enjeux pour nous autour de ça. C'est finalement comment contribuer à la transformation digitale du groupe Crédit Agricole. Ça, c'était en tout cas un des objectifs qu'on poursuivait il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc en se rapprochant en tout cas de ceux qui feront l'économie de demain et qui d'ores et déjà finalement se sont bien appropriés de ce qu'on appelle aujourd'hui le digital dans tous les secteurs. La deuxième chose très forte, c'est aussi finalement, on en parlait tout à l'heure, comment faire de l'open innovation, d'arrêter de faire de la consanguinité entre banquiers pour pouvoir continuer à innover. Ça reste vrai ça, mais c'est pas suffisant. L'idée, c'est d'aller être inspiré de gens qui ne nous ressemblent pas. Et c'est l'objectif aussi du village. Enfin, c'est peut-être aussi de travailler autrement. Aujourd'hui, comment faire pour attirer des talents dans des grands groupes lorsqu'on a des structures complètement pyramidales ? Ça fait pas rêver. Hein. Donc l'idée, c'est aussi peut-être de chercher cette agilité-là, cette transversalité-là, cette horizontalité-là, qui va permettre aussi d'attirer de futurs talents dans le groupe, notamment.
Dernière question, le village Baïséa, c'est sur Paris. Est-ce que vous vous développez ailleurs ? Est-ce que c'est un concept qui est assez unique ou qui a vocation à se généraliser ailleurs en France ou pourquoi pas en Europe ?
Ouais. Hein ? Alors, en fait, des créateurs d'entreprises, il y en a partout en France. Et quand, alors je reviens de Montpellier justement, j'étais à Montpellier pour aller pitcher le village parce qu'on aura bientôt un village à Montpellier, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un créateur d'entreprise à Montpellier, on n'a pas forcément envie de venir monter sa boîte à Paris.
Bien sûr.
Alors on a de la chance, le Crédit Agricole, il est partout en France. Et compte tenu de la dynamique aujourd'hui de l'aventure parisienne, des villages, une trentaine de villages poussent partout en France, dont 15 arrivent dès 2017. Et donc ça va permettre de faire quoi ? Ça veut dire que Victoria, avec son badge village, va pouvoir se rendre n'importe où en France pour aller rencontrer des prospects, des clients, des investisseurs. Et va aussi pouvoir se rendre partout dans le monde. Alors il n'y a pas que des inconvénients d'être dans un grand groupe, il y a surtout beaucoup d'avantages. Et on a une filiale qui est notre banque d'investissement qui est présente partout dans le monde et qui permet d'accompagner un jeune entrepreneur toutes les fois où il souhaite se développer dans un pays ou dans un autre. On a notamment 200 mètres carrés en plein cœur de Manhattan pour une start-up qui souhaiterait s'y installer.
Parfait. Alors on va se tourner vers une autre jeune créatrice d'entreprise, Madame Soquet, vous avec les tablettes qui font du bien, qui font plaisir, ces applis qui aident les seniors à faire fonctionner leur fonction cognitive, justement, leur mémoire, leur cerveau. Moi, je voudrais vous expliquer quel intérêt, quel bénéfice que vous avez eu, quels avantages à travailler avec une grande entreprise, quelle influence ça a eu sur votre développement. Est-ce que vous auriez pu réussir dans votre domaine sans ça ou pas ? Voilà, racontez-nous un petit peu votre histoire, votre parcours.
Alors, l'intérêt d'une start-up de travailler avec un grand groupe, il est évidemment évident. C'est plus évident d'un point de vue start-up que d'un point de vue grand groupe. Nous, on rêve de travailler avec des grands groupes. Pour les premières raisons qui ont déjà été citées au départ, c'est tout d'abord la crédibilité, l'accès rapide au marché, parce que c'est bien beau de créer des innovations, d'avoir des super produits, mais il faut vraiment le tester auprès des utilisateurs finaux pour voir si ça leur correspond, si ça répond à leurs besoins. Il y a des gens qui vont trouver un produit super, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin dans la réalité ? Est-ce que je vais continuer à l'utiliser dans le temps ? Ça, c'est une autre question. Et moi, ce qui m'a plus intéressé dans le rôle start-up grand compte, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est le déploiement et l'industrialisation. On construit un prototype, on a un super produit, mais quand on est une start-up, on va savoir le déployer à 200, 300 personnes, 2000 personnes. C'est super, mais ce n'est pas ce qui nous fera vivre et ce qui nous fera rester dans le temps. Et l'avantage de travailler rapidement avec un grand compte, c'est qu'on arrive dans des logiques d'industrialisation et de déploiement. Et je pense que c'est là où les startups vont pêcher, c'est l'industrialisation. Comment je vais passer à la vitesse supérieure pour aller gagner 100 000 clients, 2 millions de clients ? Comment je passe dans une logique industrielle ? Comment je mets en place une stratégie de communication adaptée, des circuits de distribution qui ne sont pas du tout les mêmes que faire un petit site internet dans son coin et le vendre comme ça ? Et si on rate ce passage-là, je pense que c'est un passage un peu critique où quand on arrive, on dit souvent qu'une start-up, si elle passe le passage des 3 ans, c'est bon. Nous, on va arriver à 4 ans, donc on est content. Mais c'est vrai que c'est ce passage un peu critique où on a eu la super bonne idée, on a eu le prototype, mais on n'a pas forcément su le déployer aussi vite qu'on l'aurait espéré. Et l'avantage de travailler avec un grand comble, c'est qu'on va passer cette étape avec quelqu'un, on est sous la houppette, et le passage se fait beaucoup plus facilement et rapidement et en douceur.
Vous êtes marié concrètement avec qui? Qui vous a aidé? Alors je crois que vous avez travaillé avec le monsieur qui est un peu à côté de vous, non? La Poste, il vous a un peu aidé, mais il y a d'autres grandes entreprises pour réussir ce développement. Qui vous a écouté? C'est pas indiscret. Comment on réussit à...
Non, effectivement, La Poste, on s'est tourné autour depuis quelques années.
Ah, vous avez tourné autour de La Poste, ou La Poste vous a tourné
ça
autour?
Ça a marché parce qu'évidemment, nous on dit souvent que dans la silver economy, le senior fait confiance à son pharmacien, mais aussi beaucoup à son postier et à son facteur à qui il ouvre la porte sans problème. Donc pour nous, travailler avec La Poste, c'était le Graal. Donc on est très contents d'avoir réussi cet objectif-là. Et ensuite, on a été accompagnés par des grands groupes de l'assurance et des mutuelles avec qui on travaille en marque blanche. Et ça nous a aussi ouvert d'autres portes, permis d'aller plus vite. Et après, plus sur la partie médicale, nous, on fait des jeux de mémoire sur tablette et on avait besoin d'avoir une certification à un tampon médical. C'est pas forcément le label dont on parlait, le label qualité que peut avoir le CA. Nous, on avait besoin d'un label santé certifié. Aujourd'hui, il y a plein d'applications de santé. Mais qu'est-ce qui fait que dans la multitude, ben ça, quand nos seniors utilisent cette application, ils vont mieux, ils font travailler leur mémoire. Et ça, on a mis du temps à l'avoir. Et on a notamment été aidé par le groupe Corian, qui est le leader européen des maisons de retraite, qui nous a dit, ben voilà, moi je crois en votre projet, votre produit est super, on va vous aider à avoir la validation clinique dont vous avez besoin.
Est-ce que c'est allé jusqu'à vous mettre en relation, par exemple, avec, je ne sais pas, un grand neurobiologiste, un grand neurologue spécialiste des problèmes de mémoire, etc., qui a pu valider votre appli, ou jusqu'où ça va finalement ce partenariat?
Alors, ça aurait pu
aller jusque-là.
Nous, on a eu la chance, quand on s'est créé, c'était en février 2013, c'était pendant les vacances. Et en fait, j'ai eu l'idée de créer Dinzeo parce qu'il y avait des médecins gériatres qui nous ont dit, bah, pour dépister de la maladie d'Alzheimer, on fait des tests papier-crayon.
Fait, oui.
Et personne ne les a pensé à les numériser sur tablette. Et en fait, c'était en pleine vacances, j'ai appelé l'hôpital Broca. Ils nous ont dit, bah, si vous voulez, venez, parce qu'il n'y a pas grand monde en ce moment, c'est les vacances. Et donc, du coup, j'y suis allée le lendemain, et en fait, on a commencé notre collaboration à l'hôpital Broca. On s'est super bien entendu, on leur a dit, nous, on n'a pas de sous. Eux nous ont dit, nous non plus, on n'a pas de sous, c'est la BHP. Et donc, on a commencé à travailler en se disant, bah, chacun apporte sa matière grise. Mais voilà, mais ça aurait très bien pu être...
Voilà. On aurait très bien pu... Vous avez eu ce soutien. Alors vous n'avez pas de sous, mais alors donc La Poste a plein de sous, puisqu'ils ont des postiers partout, ils sont très importants. Voilà, monsieur Hansen, vous allez nous expliquer quel est l'intérêt concrètement pour un grand groupe comme La Poste d'avoir créé un accélérateur, d'aider ces jeunes pousses à grandir. Vous avez pourtant bien d'autres choses à faire avec le courrier, avec plein de... Expliquez-nous un peu, on a du mal à comprendre.
Alors au-delà du groupe La Poste... Le point que je veux, sur lequel je veux insister, c'est que les grands comptes ont compris, relativement récemment pour certains, l'importance de l'innovation. Maintenant, le grand compte, il a vu qu'il pouvait se faire disrupter, voire qu'il pouvait se faire uberiser. Donc globalement, le grand compte, il n'a pas envie de vivre ce qui est arrivé à Accor, ce qui arrive à G7, ce qui arrive à la presse, donc il sait qu'il faut absolument... qu'il innove et qu'il innove aussi vite qu'une start-up. Donc pour ce faire, il a deux solutions. Bah, soit il s'organise en interne pour être aussi agile qu'une start-up. Donc ça, c'est un certain nombre de programmes qui sont faits à l'intérieur des grands comptes. Et l'autre solution, c'est de travailler avec des start-up, en partenariat avec des start-up, sur deux sujets. Un, comment je vais utiliser la start-up pour optimiser mes process, réduire mes coûts. Et deux, comment je vais utiliser un partenariat avec une start-up pour enrichir mon offre de produits et de services potentiellement beaucoup plus rapidement que si je développais le même produit et service en interne. Donc ça, c'est le point clé, c'est le grand compte a compris qu'il doit innover rapidement, et un des moyens de le faire, c'est de bosser avec une start-up. Quels sont les résultats? Donc nous, on a lancé Starting Post en juin 2014. Depuis juin 2014, on accompagne en moyenne une start-up par mois, c'est-à-dire qu'on a accompagné 28 start-up à la mise en place d'expérimentations terrain entre les clients, les prospects du groupe et puis le produit de la start-up. Et sur ces 28, à l'heure actuelle, on en a une dizaine qui se sont traduits par des partenariats pérennes dans le temps entre la start-up et le grand groupe. Donc l'intérêt pour le groupe La Poste, c'est qu'on a enrichi 10 fois, à l'heure actuelle, notre offre de produits et services qu'on peut proposer à nos clients.
Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple, parce qu'on aille encore plus loin, qu'est-ce que ça vous apporte ? Quels produits, services ou prestations supplémentaires par rapport à tout ce qu'on connaît dans les missions de La Poste, ça a pu apporter au groupe La Poste ? Par exemple, la tablette de Madame, les applis pardon, de Madame Soquet, le facteur les a dans sa sacoche et il dit « Regardez, j'ai un nom ».
Alors, le groupe La Poste, nous, on a un sujet en termes de chiffre d'affaires. On sait très bien qu'on envoie de moins en moins de courriers. Donc, notre objectif numéro un, c'est de développer le chiffre d'affaires. Et pour développer le chiffre d'affaires, on a lancé au début de cette année une business unit qui s'occupe de tout ce qui est silver economy parce qu'on considère que c'est un secteur d'activité qui va être en croissance en France et à l'étranger et sur lequel La Poste a des actifs forts en termes de confiance, en termes de présence terrain avec le réseau des facteurs et le réseau des bureaux de poste. Autour de ces actifs, qu'est-ce qu'on a fait ? On a lancé une tablette destinée aux seniors, c'est une tablette ardoise, qui est une tablette avec une ergonomie simplifiée et qui permet aux seniors d'être connectés sur le monde extérieur avec une tablette adaptée à ses capacités d'appropriation de ce nouveau type de service. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Ardoise et avec Linceo ? C'est qu'on va accueillir sur la tablette Ardoise qui a été testée sur une région nantaise et que maintenant on a déployée sur toute la France, on va accueillir des jeux qui vont être motorisés par Linceo. Donc c'est un enrichissement de notre offre qui a été conçu avec une start-up.
Je comprends mieux. Madame Schrick, alors on va revenir à ce que peut proposer l'écosystème Silver Valley. Quel plus vous apportez vraiment ? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus avant pour savoir et bien comprendre ce que propose votre écosystème ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer entre les start-up et les grands groupes ? Quels sont les plus, le fait d'appartenir à un écosystème comme le vôtre ?
Alors nous, notre objectif premier, c'est de faire gagner du temps.
Oui.
Faire gagner du temps à l'entrepreneur qui a le nez dans le guidon, qui veut développer son prototype, qui a du mal à trouver ses futurs clients, son terrain d'expérimentation, etc. Et faire gagner du temps aux grands groupes, ou aux PME, ou aux ETI d'ailleurs, qui ont besoin de faire de la veille, qui regardent un petit peu tout ce qui se passe dans les différents écosystèmes, dans les incubateurs, etc., qui sont très très sollicités. Parce que des startups, il y en a des milliers et elles veulent toutes travailler avec des grands groupes. Et typiquement, on parle du Crédit Agricole ou de la Poste dans la Silver Economy. Elles sont des acteurs qui, de toute façon, sont sursollicités par des startups. Donc l'idée, c'est de faire gagner du temps via des mises en relation qu'on estime qualifiées. L'objectif, c'est à la fois faire des mises en relation avec des acteurs pour lesquels ça semble naturel d'être mis en relation.
C'est vous qui les proposez, les mises en relation, ou est-ce que...
Alors, il y a deux modules. Nos membres peuvent demander à être mis en relation avec n'importe quel autre membre.
L'idée vient d'eux, ils ont une idée.
L'idée vient d'eux et ils savent très bien quel type de partenaire pourrait être cohérent pour eux. Et dans ces cas-là, on le fait dans la mesure où c'est pertinent. Parce que très souvent aussi, on a le rôle d'adresser l'entrepreneur.
C'est dehors, me dit monsieur Dusson. C'est pas vous, monsieur. Il fait très bien.
Oh. Très souvent, on dit à un entrepreneur, écoute, c'est trop tôt aujourd'hui, si tu vas voir La Poste, tu vas griller une cartouche, et donc il vaut mieux que tu continues à travailler ton modèle économique ou tu revois ton argumentaire commercial pour aller les voir, parce que sinon, ça sert à rien.
Donc gagner du temps garde-fou aussi, c'est un peu ce que vous dites.
Un petit peu garde-fou, c'est ça. Alors nous, par exemple, chez Silver Valley, on n'est pas un label, c'est-à-dire que n'importe quel acteur qui gravite autour du monde de la Silver Economy peut demander à être membre. Et dans ces cas-là, on l'accepte si c'est s'il a effectivement une activité dans la silver economy. C'est en aucun cas un label de qualité. Et justement, notre rôle, il est là pour voir des startups, des entrepreneurs, dont certains vont droit dans le mur, et de leur dire attention, ce que tu veux faire, il y en a 10 avant toi qui ont essayé de le faire, ils n'ont pas réussi à le faire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi ? Pose-toi les bonnes questions. Et peut-être qu'il faut que tu pivotes ton activité pour trouver un modèle pérenne. Ou alors, il vaut mieux que tu arrêtes maintenant plutôt que de passer 2 ans à développer une solution dans laquelle on ne pense pas que telle quelle, il y ait des suites à donner.
c'est pas facile de tenir ce discours. C'est accepté, entendu facilement par les jeunes entrepreneurs.
Non.
Il y en a qui partent en claquant la porte en disant « vous n'avez rien compris ».
C'est pas facile. On essaye de le faire de la manière la plus bienveillante possible. On a mis en place, par exemple, des ateliers qu'on appelle « coup de pouce, coup de boost ». Qu'on fait tous les deux mois, l'année prochaine ça sera peut-être tous les mois, où on fait venir une dizaine de professionnels de la silver economy et de l'innovation, et on fait pitcher trois start-upers qui ont une heure chacun et qui viennent soit présenter une problématique très concrète qu'ils rencontrent à un temps T, soit présenter leur projet dans sa globalité pour être challengé sur le modèle. Et très souvent, l'objectif c'est d'être le plus bienveillant possible, mais très souvent on met le doigt là où ça fait mal. Et généralement, sur le moment, les entrepreneurs sont un petit peu déstabilisés, ils comprennent pas trop nos commentaires. Et puis une semaine après, ils reviennent vers nous en disant « écoutez, j'ai réfléchi, vous avez raison, ça m'a fait du bien d'entendre ce discours, et ça va me permettre de retravailler mon offre ».
Alors on a compris à ce moment de notre débat, de notre table ronde, mesdames et messieurs, quel est l'intérêt pour les uns et les autres. Maintenant, je voudrais qu'on passe à des conseils très pratiques. Des trucs. Quels sont les trucs à connaître et les pièges à éviter pour que ces alliances entre start-up et grands groupes fonctionnent, pour ne pas se planter. J'avais une question, par exemple. Moi, si j'étais une start-up, je me dirais, oh là là, travailler avec un grand groupe, ils vont me sucer ma matière grise, ma moelle osseuse, ils vont me prendre mes idées, et puis après, ils vont me laisser tomber une fois qu'ils seront accaparés. C'est pas un risque à courir, ça ? Mesdames, mesdemoiselles qui avaient créé, vous n'avez pas eu peur de vous faire manger toute crue par le grand groupe La Poste ou vous, madame, par d'autres
Non, nous, on ne s'est même pas posé la question. On a fait confiance à nos postiers, alors on a fait confiance au groupe La Poste. Mais en fait, je trouve que quand on se pose aussi trop de questions et quand on a trop peur, on n'avance pas. Nous, on a décidé de foncer avec le groupe La Poste. D'aller vite et d'être flexible, de s'adapter, de ne pas imposer nos contraintes à nous. En tant que start-upper, on en a beaucoup en termes de technologies utilisées, de systèmes de relations, mais de plutôt d'être flexible et s'adapter aux outils du grand groupe. Et je pense que dans cette façon-là, La Poste a énormément respecté ce qu'on faisait, on respecte énormément ce que nous apporte La Poste. Et quand il y a ce partenariat un peu win-win, ben finalement, on n'a pas peur d'être bouffé et on ne se pose même pas la question.
Donc, partenariat gagnant-gagnant, vous n'êtes pas un ogre, monsieur Hansen, vous n'avez mangé personne jusqu'à présent dans Starting Post.
On n'a mangé que les gens qui voulaient être mangés.
Ah oui, quand même, vous en avez mangé quelques-uns, vous êtes en train de l'avouer là.
Dans un certain nombre de cas, la start-up a envie de faire un exit, c'est-à-dire le patron de la start-up, il a atteint un stade de maturité où il a envie de vendre son entreprise. Et donc, un des moyens de vendre son entreprise, c'est effectivement de vendre l'entreprise à un grand compte. Donc, effectivement, on a déjà, en toute amitié et sympathie, acheté des start-up ou investi en tant que minoritaire dans des start-up qui, bien sûr, l'OSCT, parce qu'on ne leur a pas tordu le bras ou forcé la main. En termes de conseils indépendamment, pour moi, le conseil qu'on peut donner aux start-upers, mais également aux grands comptes, c'est d'être très, très transparent en termes de relations entre grands comptes et start-up, que chacun explique bien qu'est-ce que lui va retirer du partenariat et qu'est-ce que l'autre va apporter et vice-versa. Quand on commence un partenariat entre grands comptes et start-up, on commence souvent par une expérimentation. Il est important dans l'expérimentation de se mettre d'accord dès le début de la phase d'expérimentation sur les modalités de l'expérimentation, c'est un minimum, mais aussi sur des objectifs et en particulier des objectifs quantitatifs. Le fait de se mettre d'accord sur des objectifs et de se donner la possibilité de mesurer ces objectifs, ça veut dire qu'on va sortir d'un discours un petit peu trop flou qu'on peut avoir entre grands comptes et start-up où chacun a envie un petit peu de faire le beau, et quand on est autour de la table et qu'on dit ben, « ok, dans 3 mois, on sera content si on a fait tant de ventes ». Le temps de vente permet de mettre un niveau de réalisme et un niveau de pragmatique que sinon on n'a pas forcément. Donc il y a cet aspect de bien se mettre d'accord sur l'objectif quantitatif et dès la phase d'expérimentation, dès la phase de POC, d'avoir une idée de si le POC est positif, quel est le partenariat business qu'on pourra mettre ensemble entre la start-up et le grand compte. Donc c'est très concret, c'est très terrain, et ça nécessite transparence, candeur et beaucoup d'échanges entre les deux parties.
Madame Benahim, pour vous, comme quel conseil vous avez à nous donner, enfin, ou plutôt quelle bonne pratique faut mettre en place pour que ça marche? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour que ça
Alors,
fonctionne?
Déjà, je différencierais très bien le partenariat win-win avec un grand groupe et tout ce qui concerne la prise de capital. Donc là, monsieur a parlé de prise de capital minoritaire, et je pense que c'est vraiment indispensable à la création de la société de bien faire attention, parce que j'ai la particularité d'avoir créé ma start-up en intrapreneuriat, ce qui veut dire que j'ai créé avec un grand groupe, mais je n'ai pas créé en étant majoritaire. C'était l'erreur de débutante, et ça m'a plus freinée et retardée que ce que ça m'a poussé. Donc vraiment, il faut bien différencier. Je partage tout à fait ton avis. Vraiment, moi, j'ai aucune difficulté à pitcher devant un grand groupe qui est bienveillant, et dans toutes les mises en relation qui ont été faites par le village ont été que des mises en relation bienveillantes avec des grands groupes. Mais par contre, pour tout ce qui est actionnariat, de bien faire attention dès le démarrage, de trouver un bon avocat qui relie. C'est des frais un petit peu contraignants au démarrage. On se dit, on va pas payer 1 000 ou 2 000 euros, mais ça vaut quand même le coup de faire attention à tout ce qui est prise de capital. Voilà.
Vous nous dites carrément qu'il faut faire appel au conseil d'un avocat pour que le contrat soit bien établi, qu'on ne se fasse pas avoir. Quoi.
Exactement. Quand on crée avec un ami ou un grand groupe... Je pense qu'il faut, toute façon, au démarrage...
Pour un contrat de mariage, quoi, grosso modo.
C'est un contrat qui va déterminer l'avenir de la start-up. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment important de dépenser cette petite somme au démarrage. La CCI peut même vous donner des chèques pour vous aider à payer des frais juridiques au démarrage quand vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'argent. Mais par contre, ça, la propriété intellectuelle, ce sont des petites choses. Donc, on fonce, mais on garde quand même un œil vigilant parce que... il faut réfléchir avant d'agir.
La propriété intellectuelle, vous avez prononcé des mots importants. Il faut pouvoir la préserver. Là.
La propriété intellectuelle pour les fondateurs, c'est quand même important au démarrage, ou alors de bien faire attention à choisir des partenaires qui restent minoritaires. Mais voilà, tout ça, c'est juste les petits conseils que j'aurais à donner pour piège à éviter.
Madame Schrick, monsieur Marcella, madame Schrick.
Pour compléter ce qui a été dit, je pense que c'est très important d'être totalement transparent dans la relation. Et de mettre très rapidement au clair la position de l'un et de l'autre, à la fois en termes de propriété intellectuelle, en termes de prise de participation, en termes d'objectifs commerciaux, etc. Et en tant que start-upper, il ne faut pas hésiter à être exigeant. C'est pas parce qu'on est plus petit qu'on n'a pas de valeur. Si la grande boîte, elle regarde mon business, c'est qu'il l'intéresse. Donc il ne faut pas, tout lâcher. En se disant, j'ai vraiment intérêt à bosser avec elle, parce que sinon, de toute façon, je mets les clés sous la porte. Faut rester exigeant et dire vaut mieux camper sur ses positions sans être borné, bien évidemment, mais connaître la valeur de son entreprise et pas hésiter à poser ses positions sur des choses importantes.
Monsieur Marcella.
Oui, je voulais revenir sur des différents points que j'ai entendus. Celui que tu évoquais, notamment sur les fonds d'investissement, parce que c'est pas que les grands groupes, enfin les gens qui investissent dans des startups, c'est souvent des business angels, des fonds d'investissement. Enfin, avant même d'arriver à la levée de fonds, il y a peut-être d'autres moyens, en tout cas, de financer son entreprise. Il faut aussi penser, bien sûr, à conserver le pouvoir dans son entreprise. J'ai trop vu de créateurs d'entreprises qui se sont retrouvés minoritaires, qui se sont même vus dégager de la boîte. Et ça, c'est pas le problème d'un grand groupe, hein. C'est les gens qui viennent investir dans ces startups. Et c'est pas spécifiquement les grands groupes. Donc, effectivement, il faut être bien accompagné. Et une structure d'accompagnement telle que les nôtres, elle vise aussi à faire ça et à mettre en garde. Ensuite, effectivement, la confiance. Enfin, une start-up qui reste à son domicile pour essayer de se développer sans jamais se dévoiler à d'autres start-up ou aux grands groupes, il y a peu de chances qu'elle réussisse. Hein, à un moment donné, et d'ailleurs ceux que j'ai vus réussir au village après 2 ans d'existence, ce sont ceux qui m'ont le plus sollicité, qui ont le plus joué le jeu. Et toutes les fois où j'ai demandé à une start-up de venir pitcher face à des dirigeants de tous les partenaires qui m'accompagnent, c'est toutes les fois où c'est une opportunité finalement pour échanger sa carte de visite. L'avantage du village, c'est qu'on n'est pas un réseau LinkedIn. Hein. On est physiquement au 55 rue Labo ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 100 startups qui sont là, à tout moment, elles peuvent descendre en chaussons pour venir à la rencontre de dirigeants. Donc c'est extrêmement simple, on ne perd pas de temps, il faut le faire.
Vous êtes des parrains, vous êtes des coachs physiquement présents.
On est
c'est un peu ça, des coachs.
On est là au service de mes partenaires et des startups. Si les deux fonctionnent bien ensemble, ça assure la pérennité du village. C'est
vous n'êtes
clair.
Ni pour l'un ni pour l'autre, ni
je suis
vendu
pour les deux.
À l'un ni vendu à l'autre, je vous prends comme ça.
Voilà.
Vous
êtes neutre. C'est pas le méchant grand groupe et la gentille start-up. Ouais. Hein, c'est vraiment les uns et les autres ont besoin de bosser ensemble. Et les règles, c'est le village qui les fixe entre les deux. Donc il n'y a pas... Enfin, le monde des startups, hein, vous le voyez, c'est un monde extrêmement communautaire. On ne pourrait pas imaginer à un moment donné qu'un grand groupe se permette effectivement, vis-à-vis d'une startup, et inversement d'ailleurs, finalement d'avoir un comportement qui ne serait pas le bon comportement. Ça se sait, et puis on est rapidement exclu. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas pérenne.
Madame Schrick.
Ouais, un autre point en termes de bonnes pratiques. Je discutais une fois avec un des directeurs de l'innovation chez Sanofi qui disait qu'ils avaient fait l'erreur avant de racheter une boîte, racheter une start-up parce qu'elle était hyper innovante, de l'intégrer dans le groupe et ça l'a cassé parce qu'ils ont intégré les process du grand groupe, les process de décision et du coup ça a cassé la réactivité et l'innovation de la start-up. Donc en termes de bonnes pratiques, je pense que c'est important à chaque fois qu'il y a une relation start-up grand compte. C'est de bien regarder c'est quoi la valeur et la création de valeur de la start-up et quelles sont les conditions indispensables pour lui laisser sa réactivité et son degré d'innovation. Et parfois même en rachetant 100% de la boîte, la laisser complètement indépendante, ne pas l'intégrer dans les process, lui donner ses propres bureaux, etc. C'est des choses qui sont importantes.
Du point de vue du personnel, par exemple, on n'a pas d'exemple où des grands groupes veulent mettre leur équipe innovation au sein de la start-up pour... discrètement contrôler les choses, ça il faut éviter. On reste chacun chez soi, même si on travaille ensemble en partenariat, mais on ne met pas de cheval de Troie à l'intérieur de la start-up.
J'ai pas d'exemple pas comme ça qui
est une question bête peut-être,
non, mais je sais pas. Mais...
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est de dire bah, finalement comment je fais lorsque je suis un chef de projet dans un grand groupe pour m'inspirer d'une start-up et devenir un chef d'entreprise. C'est d'ailleurs ce qu'on fait maintenant au village où on accueille des équipes internes de projets de grands groupes qui viennent finalement gérer leur projet comme le ferait un chef d'entreprise. Donc ils viennent plutôt s'inspirer de ces pratiques-là, de cette transversalité-là, de pouvoir finalement accélérer leur propre projet. Mais on voit bien, là, de nouveau, on est dans cet échange, cette inspiration, cette collaboration.
Vous voulez ajouter quelque chose, madame.
Pour compléter, les grands groupes ont beaucoup à apprendre des start-upers. Il y a d'ailleurs une boîte qui s'est montée, qui va voir des entrepreneurs et qui leur propose de, en une heure ou deux, de conseiller des grands directeurs d'innovation ou des DG dans des grands groupes. Parce que l'entrepreneur, par définition, il est hyper réactif, il cherche à minimiser les coûts au maximum, à agir le plus rapidement possible et le plus efficacement. Et donc, tout son business, il le gère de la manière la plus optimisée possible. Donc les grands groupes ont beaucoup à apprendre de ce genre de philosophie.
J'ai une question bête à l'intention des grands groupes. La Poste, vous êtes un grand groupe, monsieur Hanson, vous le représentez. Est-ce qu'à l'intérieur de vos grands groupes, finalement, on n'a pas peur aussi de ces petits jeunes qui arrivent et qui vont peut-être venir graviter dans vos structures, donner des leçons aux gars qui sont et aux dames qui sont installés là depuis longtemps, sont des chefs de projet Il n'y a pas aussi cette crainte, finalement, dans un grand groupe. Je parlais tout à l'heure de la crainte que pourraient avoir des startups d'être phagocytées, d'être absorbées, finalement, par les grands groupes. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'il y a aussi des... Ça remue pas un peu à l'intérieur des grands groupes, cette histoire d'alliance ?
Alors, il y a deux sujets. Il y a un sujet de compétition business entre des startups et des rencontres. Et là, effectivement, on sait qu'il faut qu'on soit très réactif, très proactif et autres. Et après, au contraire, et plutôt dans l'autre sens, c'est une grande opportunité de faire travailler conjointement des chefs de projet, des directions marketing, des directions innovation de grands comptes avec des start-up, parce que ce que nous on veut faire là-dedans, c'est développer un esprit d'initiative à l'intérieur du management et des salariés des grands comptes. On veut développer la possibilité à l'intérieur des grands comptes d'avoir une démarche agile. On veut développer à l'intérieur des grands comptes la possibilité d'accepter l'échec. Hein, c'est quelque chose qu'on fait relativement peu en France, qui est plus développé aux États-Unis. Il faut qu'au sein des grands comptes, on puisse prendre des risques, accepter l'échec, en tirer les conséquences et re-innover à côté. Donc c'est plutôt plus il y a de relations entre des start-up et puis des salariés des grands comptes, plus ce grand compte sera agile et sera capable d'aller plus vite pour se confronter à la concurrence et intégrer très rapidement l'ensemble des innovations digitales.
Madame Schrick.
Oui, dans tout ce qu'on discute, au-delà de l'aspect innovation, je pense qu'il y a un point aussi important qui est plus, si on prend un petit peu de recul, qui est plus d'ordre sociétal. Monsieur le maire disait tout à l'heure qu'effectivement, en termes de recrutement, les grands comptes sont beaucoup moins sexy qu'avant. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent d'école d'ingénieur, d'école de commerce, aller bosser pour la Poste ou le Crédit Agricole, ça les fait beaucoup moins rêver qu'il y a 10 ans.
Là, vous êtes en train de le faire grimacer, monsieur Hansen. Hein.
Non, mais c'est sexy d'aller disons à la Poste, qu'on est dans une société où, effectivement, on tend de plus en plus vers des organigrammes plats, où il y a une grosse évolution des formes de salariat et une grande réflexion vers plus d'indépendance. Et donc, cette logique d'innovation ouverte, c'est aussi une manière d'attirer des talents.
Ouais.
D'attirer des talents et de les faire travailler pour la grande boîte indirectement.
Très bien, monsieur le maire, on vous dit aussi monsieur l'ambassadeur de. C'est monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur du village Baïséa. Choisissez le terme qui vous convient.
Comme quoi, on a bien fait de choisir ce terme, maire des villages, ça permet vraiment de briser la glace. Non, ce que je voulais dire, c'est que. Enfin, jeune start-up, ça ne veut pas forcément dire jeune entrepreneur. Alors, tu n'es pas dans la moyenne des créateurs d'entreprises au village, mais au village, la moyenne d'âge du créateur, c'est 35-40 ans.
Oui,
alors, même si elle a tendance à rajeunir aujourd'hui, puisque toutes les écoles, qu'elles soient de commerce, qu'elles soient des universités ou des écoles d'ingénieurs, ont leurs propres incubateurs. Et finalement, on a de plus en plus de start-up très jeunes qui arrivent au village. Mais on voit bien la nécessité ou la complémentarité entre un plus senior, qui va peut-être avoir une expertise métier ou sectorielle, pour pouvoir accompagner une start-up, quel que soit l'âge de la start-up, j'allais dire, pour pouvoir lui permettre de se développer. Donc, par rapport à ça, bon là, on n'oppose pas les seniors dans leur poste avec la jeune start-up ou le jeune créateur d'entreprise. C'est plutôt la maturité même du développement de l'entreprise.
Question que je voulais vous poser également, est-ce que ces alliances souhaitables et qui réussissent, vous nous en avez présenté des exemples entre les start-up et la grande groupe, ça concerne finalement tous les domaines d'activité ou est-ce qu'il y a des domaines d'activité dans lesquels ça marche mieux? Est-ce que ça marche pour les finances, pour le commerce, pour l'industrie, pourquoi pas l'agriculture? Enfin vraiment tous les domaines d'activité.
Alors, je me permets juste de répondre, enfin, je suis allé hier pitcher le village à Montpellier sur le secteur de l'agriculture et comment l'agriculture innove.
Vous avez un exemple justement précis?
Un exemple précis qui est à la frontière entre le monde des fintech, donc c'est la finance et la tech et l'agriculture. C'est une start-up que j'ai accueillie au village il y a 2 ans. J'avais même pas le droit d'en parler il y a 2 ans. Pourquoi? Cette start-up, elle s'appelle Mimosa. Elle fait du crowdfunding de projets d'agriculteurs. Juste un banquier de détail, mot crowdfunding, c'était juste un gros mot il y a 2 ans. Hein.
Ouais.
Et puis il était gentil, Florian de Mimosa, il venait jouer quand même sur notre cible de clients. Hein. On est 8 agriculteurs sur 10 clients du Crédit Agricole. Donc il venait juste réinventer ce qu'était le Crédit Agricole. Hein. Et pour autant, on l'a pris, cette start-up aujourd'hui nous a permis de faire bouger des lignes, extrêmement complémentaire finalement aux offres qu'on réalise. Elle s'adresse à la fois au marché du secteur de l'agriculture comme au secteur de la finance. On a 10 caisses régionales du Crédit Agricole qui ont investi dans cette start-up. On a des offres co-brandées avec Mimosa. Voilà l'exemple typique de start-up, finalement, qui répondent parfaitement aux objectifs qu'on s'était fixés dans le village. Et donc, pour conclure par rapport à votre question sur la diversité, aujourd'hui, le digital, finalement, impacte tous les secteurs. Et au village, on a des start-up dans tous les secteurs qui bougent. La santé, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, le big data, la fintech, la surtech. Enfin bon, il n'y a pas un seul sujet qu'on n'adresse pas aujourd'hui, en tout cas au village sur Paris.
Mais vous avez prononcé le mot digital, c'est surtout ça, il faut viser pour que ça fonctionne, qu'on intéresse, qu'une start-up intéresse un grand groupe. Il faut prononcer les mots digital, numérique, high-tech.
J'ai pas que des start-up effectivement dans le monde digital. J'aime bien citer encore une fois une start-up qui est dans le monde de l'agriculture qui s'appelle Sericine. Ce sont 2 donteuses de verre à soie.
Ah oui, des dompteuses de verre à soie.
Bien sûr, je caricature quand je dis ça. En fait, elles font quoi? Elles permettent directement à partir de ces verres à soie, à travers d'un procédé en tout cas qu'elles ont développé, de pouvoir tisser directement un foulard ou un objet en 3D, quel qu'il soit, un nœud papillon ou autre. Elles s'adressent typiquement au marché, au secteur du luxe comme au secteur de l'agriculture, puisqu'elles vont redynamiser le marché des verres à soie. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le monde du digital. Même si le digital facilite néanmoins l'innovation aujourd'hui.
Je comprends. Monsieur Hansen.
Le point clé du digital, c'est que d'une part, à l'heure actuelle, il est présent partout dans tous les secteurs. Et le deuxième point clé qui est très important, c'est que le digital a permis de démocratiser le process d'innovation. Quand on regarde bien, il y a 30 ans, le process d'innovation, c'était des équipes de R&D, d'ingénieurs, qui investissaient des montants très importants, plusieurs millions de dollars ou d'euros, pour bâtir des nouveaux produits, des nouveaux services, et de préférence les breveter. Le digital fait que maintenant, deux jeunes ou pas jeunes, dans un garage ou dans un grenier, avec quelques milliers d'euros, peuvent sortir des applications mobiles, sites web, etc., etc. Donc le point clé, et c'est pour ça que les grands groupes doivent réagir, c'est que le digital a largement démocratisé le process d'innovation qui avant était préempté relativement naturellement par des entreprises très importantes.
Mesdames, messieurs, nous arrivons à la conclusion de cette table ronde. Le temps passe vite avec des gens passionnants comme vous qui ont plein de choses à nous raconter. En conclusion, je voudrais que chacun d'entre vous, en quelques mots, nous donne son conseil majeur, son message essentiel pour réussir ce mariage entre une start-up et un grand groupe, et éventuellement le piège à éviter, celui auquel, voilà, hein, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est possible, on peut essayer de jouer à ce jeu-là. On commence par vous, Madame Soquet. Alors, votre conseil de votre expérience d'INSEO.
Moi, je reviendrai sur la logique d'industrialisation dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je pense vraiment que c'est le point clé du passage du prototype à l'industrialisation, c'est penser l'industrialisation au plus tôt, parce qu'après, vous risquez de casser et devoir repartir de zéro.
Donc, l'industrialisation, donc ça, c'est le conseil. Le piège, qu'est-ce qu'il faut éviter, d'après votre expérience? Il y en a peut-être pas. Hein.
Je dirais plutôt un conseil plutôt qu'un piège, c'est de tester avec les utilisateurs finaux.
D'accord, ok. Monsieur Hansen, Starting Post.
Alors, le message, c'est qu'on peut conseiller à toutes les startups de mettre en place des partenariats avec des grands comptes. C'est une opportunité à activer. Il ne faut jamais se mettre dans une position d'être dépendant d'un grand compte, mais il faut travailler le partenariat avec un grand compte comme étant un des axes de développement à mettre en œuvre. Le conseil qui permet d'éviter le piège, c'est qu'au sein des grands comptes, on est des organisations très complexes, avec des gens qui sont décideurs, d'autres qui sont moins décideurs, avec des gens qui peuvent mettre des feux rouges, des feux verts, des feux oranges. À l'heure actuelle, dans tous les grands comptes français, enfin on a fait un listing, on a un dispositif d'innovation ouverte dont l'objectif est de repérer les bonnes start-up et de trouver les bons interlocuteurs à l'intérieur des grands comptes. Donc le conseil pour éviter le piège de perdre du temps avec le grand compte, c'est passer par le dispositif d'innovation ouverte du grand compte. C'est relativement simple à trouver pour tous les grands comptes. Donc sur la poste, c'est startinpost.com. Et avec ces dispositifs d'innovation ouverte, on va servir d'ambassadeur entre le grand monde et le grand écosystème de start-up, et puis le grand monde et l'ensemble des business units des grands comptes, ce qui permet d'aller vite et de gagner du temps en termes de partenariat. Et allez voir le grand compte quand vous avez un produit disponible. Ce qui intéresse les grands comptes, c'est vraiment quand vous êtes passé du stade PowerPoint, présentation, au stade où j'ai un produit que je peux commencer à montrer et qui est testable.
Madame Schrick, votre conseil, c'est aller chez Silver Valley, on vous accueille.
Oui, évidemment. Si vous êtes dans la Silver Economy, venez voir notre stand à côté. Non, pour moi, le conseil, c'est de ne pas hésiter à parler de son projet. Quand on est un entrepreneur, qu'on soit jeune ou moins jeune, trop souvent, il y en a qui nous disent 50% de leur projet parce qu'ils ont peur,
qu'on leur vole l'idée,
ouais. Qu'ils nous donnent des informations confidentielles et qu'on les raconte à droite à gauche, etc. Si on est dynamique et si son idée est bonne, on pourra la porter. Donc on se pénalise à ne pas raconter notre idée et on ferme certains partenariats qui pourraient être très vertueux pour le développement de la boîte. Donc surtout, parlez de vos idées et pas hésiter à la partager le plus ouvertement possible.
Alors on peut en parler au sein de Silver Valley, mais aussi on peut aller visiter le village Baïséa, rencontrer son maire, c'est ça le conseil, non, monsieur?
On peut le visiter, il y a 800 événements par an au village, donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Je vais rebondir sur exactement ce que vous dites, et c'est vrai que quand on est en plus dans le monde du digital, c'est quasiment impossible finalement de breveter une idée ou un service. Donc il faut à la fois se dévoiler et puis en même temps, voilà, on ne peut pas se protéger. Et puis sachez une chose, c'est que souvent quand on a une bonne idée, on est rarement le seul à avoir eu cette idée-là. Donc ce qui importe là, c'est la rapidité, la vitesse à laquelle vous allez pouvoir mettre en œuvre votre idée, la capacité que vous aurez aussi à attirer le plus grand nombre, à fédérer une communauté et à avoir ce qu'on appelle une traction nécessaire pour pouvoir être le premier, le plus gros, le plus fort, et surtout viser jamais uniquement que la France, surtout lorsque vous êtes sur une idée, un service et du digital, viser tout de suite le monde.
Absolument.
Voilà.
Madame Benaïm, votre conseil.
Alors, conseil aux entrepreneurs, ayez confiance en vous, voyez grand, et pour voir grand, faites-vous accompagner. Donc voilà, là c'est vrai que je parle beaucoup du village, mais parce que ça a été la structure qui m'a je pense le plus permis de décoller entre start-up inconnue, entrepreneur inconnu, jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Donc ayez confiance, et pour pouvoir avoir cette confiance, faites-vous accompagner. Et le piège à éviter, je vous l'ai déjà dit, mais ne créez pas 50-50, surtout pas avec un gros groupe. Voilà.
Voilà, donc il faut oser y aller, mais bien accompagner si possible. Mesdames, messieurs, un grand merci à vous. Merci. Pour votre participation.